Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous arrivons à la fin de nos sermons sur notre Seigneur Jésus-Christ. Les sermons suivants vont nous faire entrer dans les sacrements. Et avant de poursuivre, il faut que nous jetions un regard en arrière pour bien comprendre la démarche que nous avons faite, pour bien voir quelle est la voie que nous suivons, la route que nous suivons. Faisons bien attention. En toute chose, il y a un but. C'est ce but qui est le plus important. Or, qu'a fait saint Thomas d'Aquin? Il a écrit la somme qui est un résumé de la vie chrétienne, et il a commencé dans sa première partie, il y a trois parties à la somme, il a commencé dans sa première partie en nous faisant contempler Dieu. Il nous a montré l'existence de Dieu, il nous a surtout montré les perfections de Dieu. C'est quelque chose sur quoi Mgr Lefebvre revenait très souvent. Nous avons plusieurs retraites prêchées par Mgr Lefebvre sur Dieu et ses perfections. Dieu est infini, Dieu est l'être, Dieu est infiniment bon. Il nous fait entrer dans le mystère de Dieu. C'est pour nous une source extraordinaire d'admiration, d'enthousiasme. Bien sûr, saint Thomas nous parle également de la Sainte Trinité en nous parlant de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il nous montre la grandeur de la Sainte Trinité, la grandeur du Père, la sagesse du Fils, l'amour du Saint-Esprit. Et nous sommes nécessairement attirés. Nécessairement parce que Dieu a mis en nos âmes, il agit dans nos âmes, il a mis dans nos âmes l'intelligence, pour que ces choses-là nous parlent, comme cela parle à un enfant lorsqu'on lui parle de son père qu'il ne voit pas, ou de sa mère qu'il ne voit pas. Et dès que nous prêchons, il faut nous dire que c'est Dieu qui nous a envoyés et qu'il nous accompagne par sa grâce, et qu'il accompagne l'auditeur par sa grâce. Bref, dans la première partie, donc, saint Thomas d'Aquin nous a fait admirer les perfections de Dieu. Et il continue sa première partie en nous montrant l'œuvre de Dieu dans le monde. Ce que Dieu fait, et c'est très beau parce que il insiste d'abord sur les anges, ces créatures parfaites, puis les hommes. Et ce qu'il montre chez les hommes, c'est que les hommes sont capables de saisir Dieu. Saisir Dieu par l'intelligence, saisir Dieu par la volonté, saisir la sagesse de Dieu, saisir la bonté de Dieu. C'est une des choses qui est niée aujourd'hui, qui est oubliée. C'est une catastrophe. Qui aujourd'hui est conscient que l'homme, par son intelligence, pénètre dans la sagesse de Dieu? C'est pour ça qu'il est très important de défendre l'intelligence et son corollaire, évidemment, la vérité. La connaissance, donc la vérité. Dans la deuxième partie, saint Thomas, ayant posé cela, va nous décrire notre vie en Dieu. Il divise la deuxième partie en deux. Tout d'abord, les grands principes. Et les grands principes vont surtout insister, tout d'abord, sur notre libre adhésion à Dieu par nos actes. Saint Thomas d'Aquin ne fait pas du sentiment, et vous vous rendez compte que je ne fais pas du sentiment aujourd'hui non plus, enfin, surtout aujourd'hui où tout est sentimental. Il faut revenir à ces fondements de la vie chrétienne. Saint Thomas prouve, il établit, il montre que nous adhérons à Dieu, que nous adhérons librement, que nous adhérons vraiment. Et il montre quelle est notre responsabilité. Et toujours dans ces grands principes, il montre ensuite la présence de Dieu en nous par la loi qui est de la sagesse et surtout par la grâce qui nous a transformés, qui nous adopte comme enfants de Dieu, qui nous donne de pouvoir imiter Dieu, vivre comme Dieu, ressembler à Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, rappelez-le-vous. Deuxième partie de cette deuxième partie qui est donc la morale, après les grands principes, saint Thomas nous montre comment nous imitons Dieu par la vertu, et vous vous rappelez, mes bien chers frères, au moins pour ceux d'entre vous qui me suivent depuis les premiers sermons que je diffuse, que cette morale consiste à imiter Dieu par la vertu. Toutes les vertus font que nous avons sur terre un comportement de fils de roi, ou plus exactement de fils de Dieu. Et saint Thomas termine sa morale en nous montrant que tout chrétien est un contemplatif de Dieu. Même les chrétiens qui sont dans l'action sont malgré tout des contemplatifs de Dieu. Lorsqu'on est arrivé à la fin de cette deuxième partie, nous avons bien conscience, surtout à cause du péché, de la difficulté à mettre tout cela en œuvre. S'il n'y avait pas eu le péché, il n'y aurait pas eu besoin de l'incarnation. La grâce de Dieu aurait suffi. L'homme étant peu pris par les choses d'ici-bas, ce qui est normal, étant très pris par les choses de Dieu, ce qui est normal, n'aurait pas eu besoin d'un secours concret, visible, tangible. Mais étant donné que l'homme par le péché est non seulement tombé, mais il s'est blessé. Il s'est blessé, son intelligence est obscurcie, sa sagesse, on pourrait dire, est obscurcie, son amour de Dieu est partagé. Et quant à sa sensibilité, elle est exacerbée. Et Jésus-Christ va mettre de l'ordre dans tout cela. Il va mettre de l'ordre parce que, d'abord, l'homme ayant détruit quelque chose ne peut plus le reconstruire. Il faut que Jésus-Christ reconstruise cet ordre divin et il faut qu'il nous le communique. Et donc, dans la troisième partie, nous avons contemplé notre Seigneur Jésus-Christ et nous avons contemplé Jésus dans sa divinité, dans son humanité. Nous avons contemplé Jésus-Christ restaurant la vie chrétienne, Jésus-Christ rendant gloire à son Père, rendant l'honneur à son Père. Jésus-Christ, par son incarnation, a compensé largement le déshonneur que les pécheurs avaient causé à Dieu. Mais en plus, Jésus-Christ veut nous sauver. Il ne fait pas que rendre à Dieu l'honneur que nous lui avons pris, mais Dieu voulait pas perdre l'homme. Et donc il communique cet ordre restauré. Et nous avons vu, mes bien chers frères, donc c'est la deuxième partie de mon sermon, « Nul ne va au Père que par moi ». Nous avons vu que l'humanité du Christ est un instrument de sa divinité. Nous avons vu en étudiant le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ et tous les mystères de Jésus-Christ, nous avons vu qu'ils sont des modèles pour nous, qu'ils sont des moyens choisis par Dieu et par Jésus-Christ dans sa sagesse pour nous rattacher à lui, qu'ils sont des moyens pour restaurer notre vie, pour nous communiquer la grâce. Et nous allons voir, à partir de la semaine prochaine, Les sacrements. Je vous parlerai peut-être quand même du Saint-Esprit pour la Pentecôte. Nous verrons donc juste après les sacrements. Donc le plus important, vous voyez, c'est de nous unir à Dieu. Le résumé de tout cela, c'est que notre vie est une vie intérieure et que notre vie humaine est élevée à la vie divine. Or, la vie divine est spirituelle, essentiellement spirituelle. C'est-à-dire que elle est sainte, elle est dégagée de la matière. Dieu vit avec lui-même, c'est la perfection de la Sainte Trinité. Quels sont les moyens concrets, troisième partie de ce sermon, quels sont les moyens concrets de nous unir au Christ? Dom Marmion a écrit tout un chapitre du Christ dans ses mystères sur ce sujet. Vous vous rappelez, son premier chapitre, c'était Les mystères du Christ sont nos mystères. Eh bien, le deuxième chapitre, c'est comment nous assimiler les mystères du Christ. Dans son livre, il donne lui-même un résumé de sa conférence. Pour participer à la vertu des mystères du Christ, il faut les connaître et se mettre en contact avec eux. Premièrement, par la lecture de l'Évangile. Cette troisième partie, vous voyez, que je vous expose, mes bien chers frères, est très importante d'une façon générale. Parce que si on se précipite, je vous l'ai dit 10 fois, je crois que je vous le répéterai, si on se précipite sur les sacrements sans être préparé, si on voit l'instrument sans nous bien se disposer à la vie intérieure, les sacrements produisent peu de fruits, voire pas de fruits, voire même deviennent un poison, puisque saint Paul dit que celui qui communie mal mange et boit sa propre condamnation. Dans les épreuves dans lesquelles nous sommes, toutes les épreuves que Dieu nous envoie sont des épreuves qui ont pour but de nous faire mûrir. Toujours, toujours, toujours. Le bon Dieu tire toujours le bien du mal et les épreuves ont pour but de faire mûrir. Il y a les épreuves habituelles, normales, de toute vie humaine. Un enfant sort du sein de sa mère et voit le jour, et puis il grandit, puis il devient un adolescent avec les difficultés de l'adolescence, l'apprentissage de la vie. Et puis après ça, il y a l'apprentissage de la vieillesse. Et puis la dernière épreuve, c'est la mort, qui a encore pour but de nous faire naître, c'est-à-dire de nous faire mûrir et grandir. Et donc, dans les épreuves actuelles, faisons bien attention. Pas d'affolement. Dieu est avec nous. Jésus-Christ est avec nous. Bien sûr, il va y avoir la persécution, mais nous l'avons vu. Ce n'est pas nouveau. Tout homme porte sa croix. Alors donc, allons à l'essentiel. Et lorsque nous parlerons des sacrements, tout d'abord, nous saurons en profiter. Et deuxièmement, nous saurons comment continuer à vivre sans les sacrements. Parce que d'abord, on ne les reçoit pas 24 heures sur 24, alors qu'on vit 24 heures sur 24 avec Dieu. Et puis ensuite, aujourd'hui, on les a un peu moins qu'avant, et je vous ai expliqué la raison de cette providence divine. Premièrement, donc, connaître les mystères de Jésus-Christ s'y associer par la lecture de l'Évangile, par l'union à l'Église dans sa liturgie. Il est très important, mes bien chers frères, que vous compreniez que la liturgie de l'Église, elle est une méditation, elle est une union à Jésus-Christ, une union spirituelle. La liturgie, bien entendu, a été liée par l'Église à la messe, parce qu'elle est la meilleure préparation au sacrement, mais c'est justement cela que je veux vous faire comprendre. C'est que la préparation à recevoir l'action de Dieu, c'est tout d'abord la liturgie qui nous fait entrer en contact avec lui. Et ça, vous pouvez l'avoir, mes bien chers frères, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les dimanches et tous les jours de la semaine. Et c'est pour ça que je vous prêche ces sermons. prenez ces livres de Don Marmion, et prenez même la liturgie de chaque jour, le temporal, le sanctoral, qui vous fait entrer, parce que l'Église, qui est une bonne mère, a confié la rédaction des textes liturgiques, une bonne partie vient du Saint-Esprit, ce sont les psaumes, une grande partie vient de Jésus-Christ, c'est les textes de la messe, ou des apôtres, et puis le reste vient d'hommes éminents, de saints, à qui l'Église a confié cette tâche. Et vous allez entrer dans un état d'esprit avec la liturgie. Don Marmion précise que chacun des mystères va nous faire entrer dans une grâce qui lui est propre, et il dit cette grâce des mystères est surtout intérieure. La liturgie a pour but en nous de créer un effet intérieur, une vie intérieure, une union intérieure, une compréhension du mystère du Christ, une compréhension de son incarnation, une compréhension de ses miracles, une compréhension de sa passion, une compréhension de sa résurrection, de son ascension, une compréhension de l'action du Saint-Esprit, etc., etc., etc. Chaque mystère doit être vécu, et ça vous pouvez le faire, mes bien chers frères, développez-le, cultivez la liturgie, ayez un bon missel entre les mains, et que ce missel soit vraiment pour vous un livre de chevet, un livre précieux, comme l'est pour nous notre bréviaire. Et Don Marmion termine en disant qu'il faut des dispositions pour bien profiter de la liturgie. La première, c'est la foi, évidemment. Parce que ce que nous contemplons, ce que nous méditons, c'est un mystère. Dieu nous donne la foi pour entrer dans ce mystère. Mais si nous ravalons les choses au plan humain, nous n'entrons plus dans le mystère. Et c'est ce qui me désole un petit peu, dans les réactions multiples à propos du coronavirus. Plein de gens s'affolent sur Internet, et même, hélas, des catholiques, et même, hélas, beaucoup de traditionalistes, et même, hélas, des gens de la fidélité catholique s'affolent. Mais c'est à Dieu qu'il faut penser, pas à nous. Ce qui est grave, c'est que Dieu ne soit pas honoré. C'est bien plus grave, cela, que le vaccin, les puces sous-cutanées, la privation de liberté et tout le reste. C'est ça qui est grave. Dieu est déshonoré. C'est ça qui est grave. Et que nous soyons unis au sacrifice de notre Seigneur, nous n'avons pas à nous en plaindre, puisque notre Seigneur nous dit 8 fois dans l'Évangile, celui qui veut venir à ma suite, qu'il porte sa croix chaque jour, et qu'il me suive chaque jour, et qu'il me suive, et qu'il porte sa croix, et il ne dit pas ma croix, et il dit sa croix, parce que à chacun d'entre nous, il taille une croix qui nous associe à lui. Évidemment, la croix n'est pas toujours celle que nous attendions, ce qu'elle nous souhaitions, celle que nous espérions, et pourtant le bon Dieu sait bien mieux que nous quelles sont les croix qui nous conviennent, et il nous dit « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et que mon fardeau est léger, et que mon joug est doux. » Il y a beaucoup plus de douceur, ça c'est Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort qui nous le dit, à suivre Jésus-Christ, surtout par la Sainte Vierge, puisque je vous l'ai déjà dit, la Sainte Vierge transforme toutes les croix en confiture de croix. Alors vivez cette vie intérieure, mes bien chers frères, n'hésitez pas à me demander des livres, à m'envoyer des messages, à me demander des conseils, je suis une espèce de curé de paroisse par correspondance. N'oubliez pas non plus les retraites que je prêche, et qui ont pour objet justement de développer et de nourrir votre vie intérieure. Donc n'hésitez pas à me contacter, à me téléphoner si vous voulez, à m'envoyer des messages, à me demander des conseils, et puis je tâcherai de vous desservir aussi, de ne pas faire tout par à distance et par correspondance, de me déplacer, d'envoyer dès l'an prochain le Père Marcel Delacroix, et puis nos bons confrères, Monsieur l'abbé Salnave, l'abbé Morgan, l'abbé Rousseau, Monsieur l'abbé Peignot, l'abbé Bernabé, l'abbé de Mérode, tous ces bons confrères qui se donnent eux aussi tant et tant de mal pour le bien de vos âmes et pour que vous viviez d'une vie chrétienne profonde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.